Il en va de la sainteté comme du génie. Elle ne répond à aucun critère, elle ne se définit pas, elle s'impose. C'est une sorte de défi lancé à la raison, une gageure. C'est parfois même un scandale ambulant, tant son climat habituel est l'invraisemblable. Dieu n'est pas raisonnable, disait Sainte Thérèse. Raisonnable dans le sens où nous l'entendons. Et c'est pour cela, parce que leur logique est bien au-delà de toute nos logiques, parce qu'ils sont la preuve vivante, tangible, irréfutable, que l'homme est fait pour se dépasser, que ces chefs-d'œuvre du Créateur, que sont les saints, nous déroutent et nous empoignent. L'histoire du père Maximilien Kolb rappelle les plus belles pages de la légende dorée. C'est du cœur de la Pologne martyrisée, de cette terre de courage et de ferveur, qu'allait surgir, dans sa simplicité rayonnante, une des figures les plus marquantes de notre temps. Les nations ont les héros et les saints qu'elles méritent. Raymond Kolb naquit aux environs de Łódź en janvier 1894. Son père était ouvrier tisserand, sa mère sage-femme. Elle se préparait à entrer au couvent lorsque son futur mari la demanda en mariage. Elle accepta de l'épouser, mais à condition de vivre toujours selon la loi de Dieu. Les débuts furent difficiles. 6 enfants naquirent, dont 2 moururent en bas âge. Raymond était le second de 4 garçons.
À la maison, derrière l'armoire, il y avait, comme c'est la coutume en Pologne, une sorte de petite chapelle arrangée avec amour. L'autel, consacré à Notre-Dame de Częstochowa, était naïvement décoré de fleurs en papier. Le petit Raymond allait souvent derrière l'armoire. Il y passait de longs moments à prier. Un jour, étonné de le voir revenir les yeux pleins de larmes, sa mère l'interrogea. Mais il répugnait à répondre. « C'est un secret, maman. » Comme elle insistait doucement, il lui révéla que la Vierge lui était apparue au cours d'une de ses retraites dans la petite chapelle. Elle lui avait tendu 2 couronnes, une blanche, une rouge, en lui demandant « Laquelle veux-tu ?» Et il s'était entendu répondre « Je les veux toutes les deux. » Depuis, lorsqu'il se remémorait cet événement, le petit Raymond ne pouvait s'empêcher de pleurer.
Ce n'était pourtant pas un rêveur. Intelligent, têtu et de nature primesautière, il s'avérait en outre excellent calculateur et, comme il semblait doué pour le commerce, il fut convenu qu'il s'occuperait de la petite épicerie familiale. Il accepta sans rien dire, mais le soir, il allait prendre des leçons chez le pharmacien de l'endroit qui s'intéressait à lui. Lorsque des pères franciscains de Lvov vinrent prêcher une mission dans la ville, ses parents décidèrent de leur confier l'aîné, François. Raymond ne dit rien, mais redoubla de ferveur. Sa maman devina-t-elle son rêve secret? Au dernier moment, on lui permit d'accompagner François au séminaire. Ce fut de la part des parents un gros sacrifice.
Il travaillait avec une grande facilité, mais il craignait que les vastes projets qu'il sentait sourdre en lui ne soit freiné par la discipline d'un couvent. En dépit de son goût pour l'étude et la prière, il hésitait à s'engager. Ne pourrait-il pas tout aussi bien servir sa dame dans le monde? Il était sur le point de renoncer lorsqu'on l'appela au parloir. C'était sa mère qui venait lui annoncer une grande nouvelle. Elle et son mari, les enfants désormais élevés, avaient décidé d'un commun accord de consacrer à Dieu le restant de leurs jours. Elle allait entrer chez les sœurs bénédictines, lui chez les franciscains de Cracovie. Cette entrevue était un adieu. Ce fut pour lui un coup de foudre.
Mes yeux se dessilèrent et je compris.
La vie répondait. La vie faisait signe. Au lieu d'annoncer son départ, il alla demander au père provincial son admission au noviciat. Il se donnait corps et âme. Il reçut en religion le nom de Maximilien et ses supérieurs l'envoyèrent poursuivre ses études à Rome, au Grégorianum, où il passa brillamment ses doctorats de philosophie et de théologie.
Mais c'est la vie spirituelle qui l'intéressait par-dessus tout. Il lut avec enthousiasme la vie de la petite Thérèse et celle du bienheureux Cottolengo, toute pleine d'une sainte audace dans les entreprises impossibles. Ce furent ses deux maîtres. Mais c'est à la Vierge qu'il avait voué à jamais son cœur affamé d'amour. Or, aimer, c'est servir.
Nous n'aurons de cesse que nous n'ayons mis le monde entier au pied de notre reine.
Fils d'un peuple guerrier, Maximilien Kolb était de la race des conquérants. Cependant, tandis qu'il se préparait à gagner le monde pour que le Christ règne, une autre guerre, fratricide celle-là, bouleversait l'Europe. Un déluge de fer et de feu s'abattait sur nos vieilles terres de tradition et les ensanglantait.
C'est à Rome qu'il fut ordonné prêtre en 1918. On l'avait exempté du service militaire car il était tuberculeux. À 20 ans déjà, il n'avait plus qu'un poumon. Mais qu'est-ce là quand on veut rendre l'univers à l'Immaculé ? Aucune maladie jamais ne saura venir à bout de sa nature indomptable.
Priez, priez et encore priez. Ce qui confère à la prière sa qualité, c'est le sacrifice et la pénitence.
Il mobilise 6 autres fous comme lui dans le but de fonder une milice de l'Immaculé. Elle sera bientôt, contre toute vraisemblance, reconnue par l'Église.
Nous avons 3 fronts à conquérir. D'abord, en nous-mêmes, le plus important. Puis, devenus maîtres du premier, nous devons faire face aux 2 autres, notre entourage et l'univers entier. Toutes les nations et toutes les races, toutes, sans exception.
À la fin de la guerre, le père Maximilien rentra à Cracovie. Son état semblait désespéré. Les spécialistes déclarèrent qu'il ne s'en tirerait pas. On l'envoya dans un sanat à Zakopane. C'est là qu'allait mûrir 2 années durant son projet d'utiliser la presse pour faire circuler son message d'amour à travers toute la Pologne. Lorsqu'un beau jour, à l'improviste, le mourant reparut à Cracovie et annonça à ses supérieurs son intention de publier une revue, ce fut un tollé général. Les difficultés, pour ne pas dire plus, allaient commencer.
C'est normal. Lorsque l'œuvre est de Dieu, il faut qu'elle soit persécutée, même par les bons.
Il insista. De guerre lasse, son supérieur finit par lui accorder la permission, à condition qu'il se tirât d'affaire tout seul.
Pour se tirer d'affaire sans argent, il lui fallait mendier. Envisager le lancement d'une revue est une chose, tendre la main en est une autre. À la première tentative, 3 fois il rebroussa chemin avant de pouvoir surmonter sa répugnance. Tout dépendait de cette première victoire sur l'amour-propre. Les vies qui piétinent ont presque toujours à leur passif quelque lâcheté.
La nouvelle revue aura un titre sonore, Le Chevalier de l'Immaculé. Avec quelle sollicitude et quelle passion frémissante le père Maximilien se met à l'œuvre. Comme il n'avait pas de collaborateur, il dut écrire presque seul le premier numéro. Et lorsqu'il fallut payer l'imprimeur, il n'avait pas un sou. Le père provincial haussa les épaules.
Voilà ce que c'est, mon enfant, que d'aller avec une bêche à l'assaut de la lune, comme disent nos paysans. Je vous avais prévenu. Maintenant, tâchez de vous tirer d'affaire sans compromettre le couvent.
Que fit le pauvre père aux abois?
Comme il en avait l'habitude, chaque fois qu'une difficulté surgissait, il implora sa reine
de lui venir en aide. Et voilà qu'après la messe, il découvrit sur l'autel, tout simplement, une enveloppe contenant juste ce qu'il lui fallait d'argent.
Le chapitre convoqué d'urgence, les discussions s'engagèrent, houleuses, car le père ne manquait pas de détracteurs. Il le savait d'ailleurs, lui qui disait
« Il suffit de se vouer à Marie pour que l'enfer vous tombe sur le dos. »
Mais en fin de compte, il fut décidé que, vu les circonstances exceptionnelles du don, le père Maximilien pourrait en disposer. Sur ces entrefaites, éclata à Cracovie une grève des imprimeurs. On envoya le père Maximilien éditer sa revue à l'autre bout de la Pologne, à Grodno. Mais là, d'autres difficultés l'attendaient. L'impression coûtait cher et la revue ne rapportait presque rien. Le père décida d'acheter une machine à imprimer. L'opposition redoubla.
Lorsqu'on n'a pas le sou, on ne vise pas si haut. On ne s'amuse pas à fabriquer des revues.
Le père Kolb courbait la tête et laissait passer l'orage. Il avait la patience des forts.
C'est pour elle. Et elle peut tout.
Un chèque de $100 arriva très opportunément, suivi d'une vieille machine à imprimer que lui procurait une certaine sœur Faustine.
On se mit à l'ouvrage. Il fallait faire marcher la machine à la main. 60 000 tours pour imprimer 5 000 exemplaires. Et ils étaient trois en tout et pour tout. On travaillait à longueur de journée, souvent aussi la nuit.
Et voilà que les lecteurs se mettaient à réclamer un plus grand tirage. Que faire ?
Le père n'était pas l'homme des demi-mesures. Il décida d'acheter une linotype dernier cri. Naturellement, une nouvelle vague de critiques se déchaîna contre sa folie et son orgueil. Mais on le laissa faire. On le laissait toujours faire à la longue. Par contre, on ne sut jamais d'où il avait tiré l'argent, car le couvent ne donna pas un sou. Lorsque parurent les fameuses caisses importées de l'étranger, cela fit sensation. On n'avait jamais rien vu de semblable, de si parfait, ni de si compliqué. De tellement compliqué, même qu'on ne savait trop comment s'y prendre. C'est à ce moment qu'un jeune mécanicien se présenta et demanda son admission dans la petite communauté. C'était un spécialiste des machines à imprimer.
L'entreprise prenait corps. Dirigée de main de maître, elle bourdonna bientôt comme une ruche. Mais nul ne veillait plus jalousement sur la primauté du spirituel que ce meneur d'hommes, ce géant du rendement qu'était le père Kolb. Et, en vérité, c'était là le secret de ses triomphes incroyables.
12 000 exemplaires en 1924, 142 000 en 1928. Nous sommes en 1927. Les relations avec le couvent demeurent délicates. Le père Maximilien paie scrupuleusement et généreusement pour l'entretien de ses frères. Mais c'est leur nombre qui effraie. Et puis on comprend mal son désir de vouloir insuffler une âme et un idéal à un travail technique, de chercher à sanctifier l'atelier, d'insérer l'outil dans un cantique de gloire.
Rien pour nous. Tout pour l'Immaculée. Pour nous, le dénuement. Pour elle, les ateliers modèles, les machines les plus perfectionnées.
Encore quelques années, et de tous les coins de la Pologne, on viendra admirer chez lui les plus puissantes rotatives. Personne mieux que le père Kolb n'a su apprécier et utiliser les découvertes du génie humain. Il parlait de sa sœur, la rotative, et de son frère, le moteur, avec les mêmes accents que saint François parlait des fleurs et des oiseaux.
Maintenant, ils étouffaient à Grodno. L'importance de la revue exigeait un rapprochement de la capitale. On le lui refusa. À ce moment, le père eut une grave rechute, et ses supérieurs l'envoyèrent à nouveau à Zakopane avec interdiction formelle de penser à la revue. Il obéit à la lettre. Sainte Thérèse, sa sainte préférée, ne lui avait-elle pas autrefois enseigné sa petite voix, toute de confiance et d'abandon ? Il ne pensa pas à son œuvre, mais multiplia ses entretiens avec sa céleste protectrice.
En revenant de Zakopane, il fit la connaissance dans le train d'étudiants japonais, avec lesquels il se mit à bavarder. Le père leur offrit des médailles miraculeuses. C'était ses cartouches, comme il disait. En échange, ils lui donnèrent de petits éléphants blancs en bois qui leur servaient de fétiche. Depuis, il ne cessait d'évoquer la grande pitié des âmes sans Dieu.
À peine arrivé, il entra en relation avec le prince Drutski-Lubetski qui avait mis en vente plusieurs hectares de terrain près de Varsovie. C'était l'emplacement rêvé pour une nouvelle implantation. Mais il était hors de question pour le moment de pouvoir disposer de la somme nécessaire. Sans hésiter, le père Kolb alla déposer sur les lieux une statuette de la Madone en la priant d'intervenir si c'était opportun.
À quelque temps de là, le prince offrit son terrain au couvent en échange de messes grégoriennes. Les supérieurs refusèrent encore. Toutes ces messes, cela soulevait trop de problèmes. Au nom de la sainte obéissance, le père alla, le cœur gros, porter la réponse.
Mais que dois-je faire de la statue, dit le prince.
Eh bien, qu'elle reste où elle est.
Le prince demeurait songeur. Puisque Notre-Dame a pris possession du terrain, gardez-le. Je vous le cède pour rien.
Immédiatement, on se mit à construire de beaux ateliers et de méchants logements. Simplicité et sacrifice, tels étaient les mots-clés du père Maximilien.
Nous ne devons pas oublier que nous ne sommes ici-bas que de passage. Viendra un moment où nous nous féliciterons d'être si pauvres, car nos baraques seront trop peu confortables pour qu'on les réquisitionne.
Comme s'il pressentait l'orage qui allait éclater sur le monde. Les paysans du voisinage, d'abord effarés, furent vite gagnés par ces petits frères si courageux, si bienveillants, si gais aussi, et qui, jeunes pour la plupart, avaient des visages rayonnants. Il leur apportait de la nourriture car on savait qu'ils menaient une vie frugale et rude. 8h30 de travail, 3h30 de prière. Et c'était sans nul doute ces 3h30 de prière quotidienne qui leur donnaient la force d'accomplir un labeur prodigieux.
C'est ainsi que naquit Niepokalanov, la cité de l'Immaculée, autour d'une première baraque église. Le génie du père Kolb faisait craquer les cadres sclérosés de la vie conventuelle. Il avait, à son insu, découvert une formule de vie religieuse inédite, admirablement adaptée aux besoins de l'apostolat des temps nouveaux. Le spécialiste en habits religieux, des frères ouvriers dans un monde ouvrier. Jadis, les petits frères s'en allaient deux par deux annoncer au monde la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ils utilisaient pour la lancer aux quatre vents d'innombrables imprimés et même un postémetteur qui remplissait fort bien son office. Et le père nourrissait déjà de bien plus vastes projets.
Cette œuvre, devenue immense, aurait dû lui suffire. Mais depuis sa rencontre avec les étudiants japonais, il désirait aller en Extrême-Orient, fonder un autre Niepokalanov. Il s'en ouvrit à ses supérieurs consternés. N'était-il pas en cela fidèle à son vœu de jeune novice ?
Je veux rendre au Christ le monde entier par l'entremise de l'Immaculée.
Savez-vous le japonais ?
Non.
Avez-vous de l'argent ?
Non.
Des amis ? Quelque appui au moins ?
Non, mais j'en trouverai, avec la grâce de Dieu.
Et comme toujours, désarmé par cette confiance invincible, ses supérieurs lui accordèrent l'autorisation demandée.
Maximilien Kolb avait conquis la couronne blanche secrètement. Il appelait de tous ses voeux la couronne rouge. Услышь нас, Матко Божа, услышь нас.
Avant de s'embarquer pour Nagasaki, avec quatre autres religieux en cet hiver de 1930, le père Kolb tint à se rendre à Lourdes, puis à Lisieux.
Nous sommes la propriété de la Sainte Vierge. Nous sommes ses chevaliers, prêts à aller où elle voudra.
Il pensait à nos pauvres cœurs, avares et ankylosés, à la médiocrité des âmes qu'il aurait voulu sanctifier. Ils s'embarquèrent à Marseille. Sur le bateau et pendant les escales, le père Maximilien fit de nombreuses conquêtes. Son charme était irrésistible. Il avait conservé de l'enfance un esprit enjoué et prime sautier. La maturité avait approfondi ses qualités innées de bienveillance et de compréhension. Mais, à travers sa simplicité, on devinait une audace, une énergie, une volonté sans commune mesure. La petite troupe missionnaire arriva à Nagasaki en avril 1930. En pénétrant dans la baie, le bateau côtoya les îles où pendant trois siècles s'étaient maintenus des vestiges de christianisme malgré les plus cruelles persécutions. Dans les huttes en bambou, on conservait encore des statuettes de la Vierge Sebo, parfois trop semblables à celles de la déesse Kwannon. Il y avait alors à Nagasaki le tiers des convertis du Japon. Très bon observateur, le père enregistra vite et bien tout ce qu'il voulait savoir. En traversant les rues pittoresques et grouillantes de la ville, il regardait souvent vers le Mont des Martyrs, où d'innombrables chrétiens étaient morts pour leur foi au milieu de tortures raffinées. Un mois plus tard, le 24 mai exactement, paraissait le premier numéro du Chevalier de l'Immaculée. On avait eu du mal à traduire le titre, l'équivalent de Immaculée n'existant pas en japonais. Il avait fallu mettre sans péché, Mugenzai no Sebo no Kishi. Le père écrivait ses articles en latin, des prêtres japonais traduisaient tant bien que mal. Leur machine était vieille et rouillée, ils avaient les mains en sang. En Pologne, quand on reçut la dépêche, expédions aujourd'hui premier numéro, avons d'imprimerie, gloire à l'Immaculée, il y eut un moment de stupeur. Les frères se regardèrent, interdits. Jusqu'à ce jour, personne n'avait cru sérieusement à la réussite de l'expédition japonaise. Il faut dire que la petite équipe vivait dans des conditions bien précaires. Ils logeaient dans un baraquement au toit troué. Une nuit, il y eut une tempête de neige, et au réveil, le dortoir était tout blanc. Le père était épuisé par de violents maux de tête. La fièvre ne le quittait pas. Mais déjà, il projetait d'éditer la revue en turc, en persan, en arabe et en hébreu. Selon la coutume japonaise, des colporteurs dans les rues sollicitaient des passants l'honneur de leur adresser la revue. L'accueil était sympathique, parfois même enthousiaste, car le Japon se mourait du vide spirituel que lui avait laissé l'abandon de la foi ancestrale au profit d'un nationalisme effréné. Le vide de ses âmes demandait à être comblé.
Quelle moisson abondante nous attend, pourvu que chrétiens nous le soyons vraiment.
Le tirage monta à 10 000 exemplaires. Le rayonnement du père Maximilien était tel qu'on venait de loin pour l'entendre et pour le voir. Était-ce de la curiosité, ou plutôt cet attrait irrésistible de la sainteté ? Lui-même se plaisait à ses contacts et passait de longues heures avec ses chers païens. Sa figure émaciée souriait, heureuse, au milieu des visages impénétrables des bonzes. Brusquement, on le convoque au chapitre général de l'ordre qui doit avoir lieu à Lvov. Obéissant comme toujours, il parle à mort dans l'âme, car personne en son absence n'est capable de maintenir l'œuvre énorme poussée trop vite. Parti par le Transsibérien, il en profite pour s'arrêter à Moscou. À Lvov, il obtient du chapitre l'autorisation de fonder à Nagasaki une succursale de Niepo Kalanov et d'ouvrir un noviciat pour les indigènes. À son retour, trois mois après, il constate les ravages causés par son absence. On est au bord de la faillite.
Mais sa présence sauve tout et c'est un nouvel essor. Il achète un terrain sur une pente de la montagne qui tourne le dos à Nagasaki. Tout le monde le critique. Le père sourit et s'entête. Après le cataclysme de la bombe atomique en 1945, le jardin de l'Immaculée demeurera presque intact et personne ne périra dans son enceinte. Naturellement, il fallut tout construire par soi-même. Ce fut une étape difficile. Certains se décourageaient et demandaient à rentrer. Le père Maximilien fit des merveilles. Mais rien ne lui vint facilement, et chaque jour de sa vie fut pour sa foi un dur creuset.
Il faut croire, croire contre toute espérance.
Heureusement, il y avait des compensations. Les œuvres de Dieu produisent d'admirables sélections. Pour un qui fuyait, il s'en présentait deux autres. À l'abandon des uns s'opposait le silencieux barrage du plus pur héroïsme. Envers et contre tout, la maison se construisait, fonctionnait. Et bientôt, elle ressembla, en plus petit, à la magistrale réalisation du Niepokalanov polonais. En 1934, la revue tire à 65 000 exemplaires et le père a la joie d'ériger une belle église à Mugenzai Nosono. Mais sa santé se dégrade de plus en plus. Il a de fréquents crachements de sang. Brusquement, on le rappelle en Pologne pour le chapitre général et on le nomme gardien, c'est-à-dire supérieur de Niepokalanov. Fini les missions, les rêves de martyr.
Non seulement son retour, une fois de plus, redresse une situation obérée, mais les trois années qui précèdent la guerre marquent un essor vertigineux. Le père se dépasse, il est pressé. Il rachète chaque minute avec le pressentiment de la catastrophe imminente et de sa propre fin. Chaque jour, il reçoit de 2 à 5 000 lettres. Financièrement, il est presque totalement indépendant. Niepokalanov, qui compte plus de 700 habitants, est cité comme un modèle d'organisation et de rentabilité. Le tirage de l'hebdomadaire atteint 1 million d'exemplaires. Et le petit chevalier, pour les enfants, 180 000. Le père Maximilien envisage de monter sa propre papeterie et rêve à l'avion comme un moyen de transport habituel. De son côté, la milice de l'Immaculée compte pour la seule Pologne 600 000 membres. Est-ce l'apogée de cette cité mariale?
Non, car en même temps qu'il entreprend la publication en latin du Miles Immaculate destiné à rallier le clergé de toutes les races et de toutes les langues...
Notre agence mondiale de presse en quelque sorte.
Le père lance sur le marché son petit journal qui, très bien rédigé et peu coûteux, devient bientôt le journal le plus populaire de Pologne.
C'est que l'humble feuille allait droit au cœur du peuple. Elle déclarait une guerre sans merci à toutes les formes d'abus, combattait la pornographie, assainissait les mœurs. C'était le quotidien des petites gens, des paysans, des ouvriers. Chacun se sentait compris et défendu. En peu de temps, le tirage du petit journal, blanc et bleu, aux couleurs de la Vierge, atteignit 320 000 exemplaires, chiffre énorme pour le pays. Car c'était elle, Marie, la grande patronne, elle que chaque Polonais aime d'un amour ardent et fidèle. Le père Kolb avait visé juste. Notre-Dame était son passe-partout. Le merveilleux essor de toutes ses œuvres ne s'explique que par ce capital surnaturel de prière et de pureté qu'il avait mis à la base.
Tout pour elle, tout par elle, tout en elle, pour la gloire de Dieu et le règne du Christ roi. C'est elle qui doit nous former, nous élever, nous sanctifier. Notre rôle est de nous laisser faire et d'obéir aveuglément. Toute la philosophie de Niepokalanov est là. La seule chose qui compte, c'est notre vie intérieure. N'oubliez jamais que notre activité extérieure ne peut être qu'un surcroît de ce que nous avons en dedans, un trop-plein qui déborde.
Les frères qui l'écoutaient buvaient littéralement ses paroles.
On pouvait toujours frapper à sa porte. Avec quel amour n'accueillait-il pas ces petites brebis égarées? D'instinct, il remontait aux sources de la spiritualité franciscaine, l'amour de la sainte pauvreté, l'obéissance aveugle, et surtout, sa gentillesse, son immense charité qui lui gagnait tous les cœurs. Il avait, pour ceux qui l'approchaient, des délicatesses exquises. Lui, toujours débordé, savait écrire à un scrupuleux, presque tous les jours, de longues lettres de 6 pages. Et souvent, dans ses lettres ou dans ses conférences, il lui échappait des paroles révélatrices. Le père Maximilien savait. Et, tout doucement, il préparait son petit monde au martyr.
En effet, de lourds nuages s'amoncelaient sur l'Europe.
Un conflit atroce se prépare. Chez nous, en Pologne, il faut s'attendre au pire. Mais nous devons nous réjouir de ce qui arrivera, car, au milieu des difficultés, nous comprendrons davantage la nécessité de la prière et de la pénitence. D'ailleurs, notre idéal, ardemment désiré, n'est-il pas de donner notre vie pour l'Immaculée ?
Septembre 1939, la guerre éclair s'abat sur la Pologne. Des escadrilles de Junkers sillonnent le ciel, telles d'immenses rapaces. Les bombardements se succèdent nuit et jour, sans répit. Bientôt, le front passe tout près de Niepokalanov. Les frères sont évacués, à l'exception d'une 50aine chargée de l'infirmerie. À leur tête, souriant, imperturbable, le père Kolb. Déjà, les blessés affluent. Il faut tout improviser. Jamais, comme en ces jours terribles, il n'avait donné sa pleine mesure de père et de chef. Sa présence seule était un baume. Le 19 septembre paraissent en motocyclette les premiers Allemands.
Allez, raus ! Raus !
Aux religieux réunis, ordre est donné de vider les lieux immédiatement, sauf 2 qui peuvent rester à l'infirmerie.
Restez, père.
Non, mon petit enfant. Le frère Syriac sera bien plus utile que moi.
On les entasse dans des camions en direction d'Amfitz.
Mauvais traitement, promiscuité humiliante, privation, l'enfer commence. Les frères se demandent comment ils tiendront le coup. Bien que malade, le père Kolb les réconforte, les invite à prier et à se réjouir.
Pensez donc, quelle aubaine ! La Sainte Vierge nous a envoyés gratis en mission en Allemagne.
Et il se met à distribuer aux Allemands ébahis des médailles miraculeuses dont il a toujours les poches pleines. Quel est le secret de cette sérénité ?
Lorsque la souffrance est loin, nous sommes prêts à tout. Mais lorsqu'elle est là, tout change. Profitons-en pour gagner des âmes.
L'ordre de libération arrive cependant le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Les petits frères, qui ne rêvaient peut-être pas tous au martyr, l'accueillent avec allégresse. Seul le père demeure pensif.
Son heure n'a pas encore sonné.
Revenu à Niepokalanov, dévasté mais non réquisitionné, les Allemands ont méprisé ces médiocres baraques, le père Kolb décide de reprendre ses publications. Il reçoit l'autorisation pour un numéro. Mais lorsque la censure lut dans un article écrit de sa main,
personne au monde ne saurait changer la vérité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est la chercher, la trouver et la reconnaître en y adaptant notre vie.
L'autorisation pour un second numéro n'arriva jamais.
L'attente douloureuse commence alors. Le père sait qu'il ne survivra pas à cette guerre. N'a-t-il pas dit un jour ?
Mère très douce, je me donne à toi pour mourir sur un grabat misérable, entouré de cœurs complètement insensibles et froids.
Notre-Dame ne tardera pas à exaucer son chevalier. Le 17 février 1941, une auto noire stoppe devant le couvent. Des nazis en descendent.
C'est vous, Maximilien Kolb ?
C'est moi.
Suivez-nous !
Il sourit, heureux. Cette fois, c'est pour de bon.
C'était l'époque la plus noire. Chaque jour, des milliers de Polonais étaient passés par les armes. Mais dans la cellule 103 de la prison de Pawiak à Varsovie, le père Maximilien ranimait l'espoir. Un jour, un char Führer SS, saisi de rage à la vue de son habit religieux, lui arracha son chapelet.
Qui pas la sienne de Schweinhund, sale curé ! Dis-moi si tu crois en Jésus Christus ?
Oui, je crois.
Une gifle magistrale le fait plier en deux, et il sent dans sa bouche le goût du sang.
Crois-tu encore ?
Oh oui, je crois.
Les coups pleuvent, accompagnés de jurons. La figure du père devient blanche, puis violette. À chaque coup, il se redresse plus difficilement, mais il continue de faire face.
Oui, je crois.
Finalement, il s'écroule. Alors la fureur de la brute ne connaît plus de bornes. Il s'acharne à coups de bottes jusqu'à ce que sa victime ne bouge plus. À peine le père a-t-il repris connaissance, le visage tuméfié, qu'il s'efforce de calmer ses compagnons horrifiés.
Mes amis, réjouissez-vous avec moi. C'est pour l'Immaculée.
Le 28 mai, des wagons plombés s'arrêtent en gare d'Auschwitz. C'est là, dans ce camp d'extermination, que plus de 5 millions de malheureux trouveront la mort dans d'atroces tortures.
Il y eut ceux qui mouraient dans la révolte et la haine. Il y eut les martyrs involontaires, soudain grandis par l'acceptation du sacrifice. Il y eut aussi ceux qui rachetaient, volontairement, ceux qui s'offraient en holocauste. Le père Kolb était du nombre.
La faim qui empêche de dormir, le froid qui paralyse, l'avilissement méthodique, rien n'est épargné aux prisonniers. Et parmi eux, les prêtres sont particulièrement visés. Chargés des plus dures corvées, cravachés, ils se voient réduits à l'état de bêtes traquées par une méchanceté hystérique.
Dans ce creuset, les âmes étaient mises à nu. Celles des bourreaux comme celles des victimes. Des effondrements lamentables, des déchéances que l'on n'aurait jamais cru possibles, côtoyaient les plus sublimes dévouements. Des hommes et des femmes, consciemment, par cet acte de liberté totale qui épouse le bon plaisir divin, acceptaient leur croix, achevaient la rédemption.
La compagnie Babice, la plus atroce, a pour chef Crotte le Sanglant. Ce monstre voue au père Kolb une haine sans merci. Avec ses camarades, le malheureux doit transporter au pas de course de gros troncs d'arbres. Et chaque fois qu'il tombe sous le poids, les coups pleuvent sur son dos décharné.
Un jour, épuisé, il ne peut plus se relever et on le laisse pour mort dans une ornière.
Le soir, des camarades le ramènent, loque sanglante.
À l'hôpital, qui est un enfer dans l'enfer, les malades meurent comme des mouches. Ils sont trois ou quatre sur le même grabat, sans soins, sans personne pour leur tendre un verre d'eau. Le père choisit la plus mauvaise place, près de la porte.
Ainsi, je vois les morts qu'on emporte, et je prie pour eux.
Il distribue ses maigres rations, confesse toute la nuit, réconforte les désespérés.
Il faut tenir, vous devez survivre. Confiez-vous à la Sainte Vierge.
Parfois, malgré l'interdiction et les menaces, il fait à des auditoires de squelettes et de moribonds de vraies causeries spirituelles. Il s'exprime avec tant de ferveur et d'enthousiasme que ses compagnons en sont transportés. Mais le 30 juillet 1941, un silence consterné s'abat sur le bloc 14. Un prisonnier s'est évadé. Et chacun sait que pour un évadé, 10 hommes de son bloc seront condamnés à mourir de faim. Cette nuit-là, personne n'a dormi. La mort par la faim est de toutes la plus terrible. Et la peur torture les entrailles.
Mais non. Mais non, mon petit. La mort n'est pas si effrayante.
Le lendemain matin, à l'appel, tous les blocs reçoivent l'ordre de rompre les rangs. Sauf le 14. Et toute la journée, il reste là, au garde à vous, attendant la sentence. Au soir, Fritsch, le chef du camp, s'avance. Un frisson d'épouvante parcourt les rangs, presque sensible.
L'évadé n'a pas été retrouvé. 10 d'entre vous mourront à sa place dans le Hunger Bunker, dans le bunker de faim. La prochaine fois, il y en aura 20.
Dans le silence, les respirations ressemblent à des gémissements. Fritsch s'approche du premier rang, examine chaque homme bien en face, prend son temps. Visiblement, il savoure la terreur qu'il inspire.
Zelbici! Zelbina!
À chaque fois, l'homme désigné fait un pas en avant.
Encore celui-là!
Ma pauvre femme! Mes enfants! Que vont-ils devenir?
Voilà, ils sont 10. 10 condamnés à mort.
Chouvet!
Tout à coup, un bagnard sort des rangs. Il ose. Le Lagerführer recule, saisit son revolver.
Halt! Attention! Que veux-tu, cochon de polonais?
Je veux mourir à la place d'un des condamnés.
Fritsch le regarde, abasourdi.
Et pourquoi?
Je suis vieux et bon à rien. Ma vie ne servira plus à grand-chose.
Pour qui veux-tu mourir?
Le père, doucement, désigne l'homme qui gémit.
Lui, il a une famille.
Fritsch voudrait comprendre.
Mensch, wer bist du denn? Qui es-tu?
Prêtre catholique.
Jamais, pendant l'appel, le silence n'avait tant duré.
Ja, einverstanden. Jawohl, geh mit, war avec eux.
Cette fois, ça y est. Il a atteint le but suprême. Tout conquis. Tout racheté. 100%.
Avec elle, je peux tout.
Dans les souterrains du bloc de la mort, il y a des bunkers humides et sombres où l'on enferme les condamnés, nus. À partir de ce moment, on ne leur donne plus rien à manger. Et ce qui est plus horrible encore, rien à boire. Ils agoniseront là, lentement, desséchés par la soif, les veines en feu, fous de désespoir.
Jusqu'à ce jour, le bunker de faim retentissait du hurlement des damnés. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ce lieu de supplice s'est transformé en chapelle ardente. Et de cellule en cellule, les prières et les chants se répondent. De jour en jour, les voix deviennent plus faibles, mais ce ne sont pas des cris de désespérés. Les SS n'en reviennent pas. Jamais encore nous n'avons rien vu de pareil.
Le 14 août 1941, veille de l'Assomption, 2 semaines après la réclusion, il n'y a plus que 4 survivants. Seul le père, assis par terre, est encore lucide. Il a congédié un à un son petit troupeau. Maintenant, seulement maintenant, il peut mourir. Au garde-chiourme qui entre pour l'achever d'une piqûre, il tend son bras décharné tout en continuant de prier. L'équipe chargée du nettoyage le trouva dans la même position, la tête penchée, appuyée contre le mur. Un témoin a raconté:
les autres cadavres étaient sales, recroquevillés sur le sol avec des visages ravagés. Lui semblait dormir, le corps net, le visage serein. On aurait dit qu'il répandait de la lumière. À le voir, on se rendait bien compte que c'était un saint.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain.